Transatlant Queer. Des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard.
Bon, on vous a dit que l'émission serait différente cette année. En fait, parmi ces choses différentes, c'est des nouvelles chroniques et aussi ben, des nouveaux sons. Hein. On aime bien vous faire entendre de nouveaux sons et aussi de nouvelles voix. On a décidé de cette année de vraiment s'intéresser à l'actualité, pas seulement ici au Canada, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Alors, la raison pour laquelle, donc, on fait un transatlant queer, c'est qu'on va prendre le bateau, ou plutôt l'Internet, et se rendre à Paris, où on rejoint notre correspondant. Il s'appelle Christophe Gérard. Salut, Christophe.
Tu m'entends?
Oui, on t'entend.
Est-ce que tu m'entends?
Très bien. Est-ce que tu m'entends, okay. Moi?
Oui. Bonjour, Denis Martin.
Salut. Ben, bonsoir.
Moi, je t'entends très, très bien.
Ou peut-être bonne nuit chez toi, hein, parce qu'il est
bonsoir,
tard.
Bonsoir, oui.
Oui, oui. Ben, écoute, on va parler
c'est
d'actualité.
C'est pas encore tout à fait la nuit.
Non. On va parler d'actualité queer à cette émission, d'actualité queer de l'autre côté, Outre-mer, parce que souvent, ce qui se passe ailleurs, ça finit par avoir des répercussions chez nous. Et donc, allons-y. C'est quoi l'actualité queer présentement en France?
Je vais commencer par le 10 juillet dernier, puisque c'est la date à laquelle la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la diversité a dévoilé le nouveau plan de lutte contre les violences anti-LGBTQIA+ pour la période 2023-2026, un sujet qui est présenté comme étant une priorité du gouvernement actuel. Alors, selon le communiqué de presse, ce plan s'inscrit dans une volonté politique forte de déployer des actions concrètes et ambitieuses avec pour objectif d'éradiquer le fléau de la haine et donc de la violence. Et pour ce faire, c'est plus d'une centaine de partenaires, des associations, différents ministères, des entreprises et des institutions indépendantes qui ont travaillé ensemble pour présenter et proposer plus de 30 mesures. Alors, ce nouveau plan s'articule autour de cinq axes. Le premier, c'est de nommer la réalité des LGBT-phobies, de mieux les mesurer, de garantir l'accès et l'effectivité des droits, de sanctionner les auteurs et les actes LGBT-phobes et de développer la stratégie française au niveau européen et international. Il bénéficie d'un budget de 10 millions d'euros, une aide exceptionnelle de 7 millions étant ajoutée aux 3 millions annoncés en 2021. À en croire le gouvernement, ce nouveau plan est donc ambitieux. Mais à la lecture des mesures prises, on peut se demander si elles suffiront pour lutter réellement contre ces haines et violences en constante augmentation, ou s'il n'est pas seulement un énième effet d'annonce qui sera classé sans suite.
Oui, parce que là, tu parles d'augmentation des haines et des violences, là, parce qu'il y en a, il y en a en France présentement. En fait, il y en a partout dans le monde, mais il y en a dans ton coin, là.
Tout à fait. Hein. Si on se base depuis 2016, les actes et les délits LGBT. Phobes ont augmenté de 219%. Et paradoxalement, seulement 20% des victimes de ces actes portent plainte. Et si on se base uniquement sur les victimes d'injures LGBT-phobes, le pourcentage tombe à 5%. Pour Joël Demier, qui est le coprésident de SOS Homophobie, si certaines mesures vont dans le bon sens, le gouvernement a manqué d'implication et de réaction face à l'explosion des agressions LGBT-phobes en 2022, une année durant laquelle il y a eu une agression physique contre une personne queer tous les 2 jours en France. Selon lui, il manque de mesures phares, notamment à destination des personnes trans, comme la déjudiciarisation. À l'heure actuelle, une personne trans doit passer devant un juge pour obtenir un changement de genre à l'état civil. Joël Demier espère également que l'aide exceptionnelle de 7 millions d'euros, dont je parlais tout à l'heure, sera pérennisée. Parmi les mesures qui sont annoncées, l'État veut que 100% des effectifs des forces de l'ordre soient formés aux thématiques LGBTQIA+. Le but étant de renforcer les patrouilles de sécurité aux bons endroits, au bon moment. Mais selon SOS Homophobie, ce point apparaissait déjà dans les précédents plans et n'a jamais été appliqué. Alors certes, ce plan contre la haine et les violences anti-LGBTQIA+, elle mérite d'exister, mais il ne faudrait pas qu'il se transforme en mesure bonne conscience, en une sorte d'inventaire à la Prévert, sans réelle action concrète. Il faut savoir que les actes LGBTQIA+, continuent, hein, malgré l'annonce de ce plan, comme si de rien n'était et sans aucune médiatisation. Bref, il y a encore du travail et des combats à mener pour que les choses s'améliorent enfin. Il est à noter également que le 30 août dernier, Olivier Klein, qui est l'ancien ministre délégué de la ville et du logement et l'ancien maire de la ville de Clichy-sous-Bois, a été nommé à la tête de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, ce qu'on appelle chez nous la DILCRA, qui est un organe important contre toutes les formes de discrimination.
Justement, tu parlais de formation aux thématiques LGBTQIA+, là, qui s'en charge de ça chez vous?
Alors, c'est l'association FLAG qui a cette mission, à qui revient cette mission au sein de la police notamment. Et cette dernière a fait le buzz, pardon, à la fin du mois d'août pour des raisons bien plus glorieuses. FLAG, c'est l'association qui regroupe policières et policiers, pompières et pompiers, agences et des ministères de l'Intérieur et de la Justice, toutes et tous engagés contre les LGBT-phobies. Le 26 août dernier, c'est dans un tweet que Michaël Bûcheron, cofondateur et ancien président de la structure, dénonçait l'élection d'un président proche de l'extrême droite. Dénonciation et tweet renforcés par une lettre ouverte adressée aux adhérents de l'association. Les 15 signataires, parmi lesquels 5 membres fondateurs, mettaient en avant les dérives de FLAG et appelaient à une mobilisation sans faille des policières et policiers pour un réveil ré républicain. Cet appel faisait suite au départ de Joanne Caviro, présidente durant les 4 dernières années, et à l'élection de Michel Le Guéret par le comité d'administration pour le remplacer. Il n'en fallait pas plus pour faire polémique, puisque des prises de position de Le Guéret, proches de l'extrême droite, et notamment d'Éric Zemmour, ont refait surface.
Ah oui, hein? Moins de Zemmour, plus d'amour, s'il vous plaît.
Tout à fait. Pour les signataires de la lettre, il est inacceptable que FLAG puisse élire en son sein un président défendant des valeurs qui sont contraires aux droits essentiels des personnes LGBTQIA+ et à la lutte contre les LGBT-phobies et le racisme. Michel Le Guéret a en effet occupé la présidence de l'Alliance souverainiste de l'estuaire de la Rance, une association qui comptait parmi ses membres plusieurs personnes du Rassemblement national. Et son nom apparaît également aux côtés de celui d'Éric Zemmour en 2021, puisqu'il a organisé la venue du candidat à la présidentielle pour une conférence culturelle en Bretagne. Alors, face à cette polémique, Michel Le Guéret a très rapidement démissionné et son poste de président. De son poste de président, tout en restant en fait au sein du comité d'administration. Et dans un communiqué, il a nié toute proximité avec Zemmour. Et devant ce remue-ménage, la fédération LGBTI+ s'est désolidarisée de FLAG en précisant qu'elle était soulagée de la démission de Le Guéret, mais qu'elle restait vigilante car pour elle, c'est l'intégrité de la direction de l'association qui porte la responsabilité de cette situation. Ajoutant que le mouvement LGBTQIA+ a besoin de policières et policiers, de gendarmes et des personnels de justice alliés pour faire évoluer cette institution. Alors depuis, une nouvelle élection a été organisée et c'est Vanessa Recoul, chef du centre de traitement de l'alerte des pompiers de l'Aisne, qui a pris la présidence de FLAG. C'est une personnalité plus fédératrice qui devrait permettre à l'association de retrouver un peu de sérénité.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps, il reste encore quelques minutes, mais on pourrait peut-être parler des thérapies de conversion qui sont toujours pratiquées en France.
Tout à fait. C'est une enquête de la chaîne d'information en continu BFM TV qui a révélé récemment que l'association protestante évangélique Torrent de Vie avait organisé cet été dans le sud de la France des séjours pour, je cite, aider les personnes chrétiennes à tendance homosexuelle qui se sentent mal à l'aise dans leur identité, alors
Et
que
jusqu'à peu près.
les thérapies de conversion sont interdites en France depuis le 31 janvier 2022. C'est la journaliste Morgane Dumont qui a infiltré avec une caméra cachée un de ces séminaires au milieu de 27 participants. Au programme de ce séjour d'une semaine, des prières et des échanges en petits groupes pour renoncer au feu du désir. Selon l'un des organisateurs, une attirance homosexuelle, c'est une façon de remplir quelque chose que je n'ai pas eu, de l'amour que je n'ai pas eu et que je vais chercher chez un semblable. Des maux supposés guéris à force de câlins et de prières pour combler un manque d'amour. Un pasteur qui ne savait pas qu'il était filmé suggère de se couper du monde extérieur. N'hésite pas. Les podcasts à la croix, Facebook à la croix, tout ce qui peut te donner des images qui sont toujours des séductions, débarrasse ça. Au final de cette semaine, un participant demande à une femme de s'agenouiller tandis que 11 personnes l'entourent et prient pour la délivrer des ténèbres de l'homosexualité. L'association Torrent de Vie est implantée dans une quinzaine de villes à travers la France. Elle a été fondée par Andrew Kominski, qui est un Américain, qui explique qu'il était homosexuel et qu'il est devenu hétérosexuel grâce à Dieu et à ses thérapies. Alors, ce n'est pas la première fois que l'association fait parler d'elle. En 2021, elle a déjà été épinglée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Dans son rapport, il est précisé que Torrent de Vie se défend de pratiquer toute thérapie de conversion, mais d'y aider à la restauration de l'identité relationnelle et sexuelle des participants, souvent déchirés entre leur sexualité et leur vie chrétienne. Alors, si la mission invite à faire la différence entre les thérapies à vocation psychiatrique et médicale de celles à vocation religieuse, elle note cependant que tous ces groupes entendent guérir l'homosexualité ou la transidentité en utilisant des éléments de la dérive sectaire comme la déstabilisation mentale, l'atteinte à l'intégrité physique ou encore à un discours antisocial. Suite à cette diffusion de cette enquête, Bérangère Couillard, qui est la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la diversité, a saisi le procureur de la République et la DILCRA en déclarant qu'elle condamnait fermement ces pratiques.
On a un petit peu de temps, allons-y pour faire peut-être un tour d'Europe, de l'actualité queer.
Tout à fait. En commençant par l'Allemagne, où le gouvernement a dévoilé le 23 août dernier un projet de loi dit d'autodétermination du genre qui vise à simplifier les démarches du changement de genre et de prénom pour les personnes transgenres, intersexes, mais aussi non-binaires. Alors, il n'y aura plus besoin d'une décision de justice, hein, il suffira simplement de remplir une déclaration directement auprès des services d'état civil. Et c'est une loi qui concerne les individus à partir de 14 ans. Alors, si ça semble être un véritable progrès, rien n'est encore fait, hein, puisque cette loi est controversée par les conservateurs, on s'en doute, et que pour qu'elle soit appliquée, elle doit d'abord être adoptée par le Bundestag, le Parlement allemand, et c'est loin d'être gagné.
On a le temps de parler des Pays-Bas. Allons-y rapidement. Miss Pays-Bas. Il y a quelque chose
Alors, aux Pays-Bas,
d'intéressant, oui.
tout à fait, puisque le 8 juillet dernier, Ricky Colleux a été élue Miss Pays-Bas. Ça peut paraître bizarre de parler d'une élection de Miss, mais en fait, pas tant que ça, puisque à 22 ans, Ricky Colleux est la première femme trans à obtenir ce titre aux Pays-Bas. Et si elle a été largement soutenue par les internautes, elle a également, on le suppose, hein, subi une vague de commentaires transphobes sur les réseaux sociaux après sa victoire. Et face à cette situation, elle a déclaré: je nous pensais plus tolérants aux Pays-Bas, mais ces commentaires montrent la réalité de notre société et j'espère que cela fera réagir. Les gens me voient comme la gagnante trans de la compétition, je suis la gagnante tout court. Et si ma victoire à ce concours peut servir d'exemple à toutes les petites Ricky qui font face à la souffrance et au rejet familial après avoir engagé leur transition, c'est là ma vraie victoire. Ricky Colleux participera en décembre prochain au concours Miss Univers et deviendra ainsi la deuxième femme trans concurrente après l'Espagnole Angela Ponche.
Bien, on va s'arrêter ici, Christophe Gérard à Paris. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui.
Ben, merci à toi, c'est un vrai plaisir de rejoindre l'équipe et je vous dis au mois
Au
prochain
mois
pour une
prochain.
nouvelle Transatlant Queer.
Merci.